Comme un bonsoir.
Bonsoir, il est le candidat qui se rêve président normal de la France. Si l'on en croit les sondages, eh bien son rêve pourrait devenir réalité. François Hollande est notre invité ce soir dans Forum. La crise de la zone euro continue d'affoler les marchés, de bousculer les États. Paris et Berlin ne sont toujours pas d'accord sur la tenue d'un sommet de crise au plus haut niveau. Et pendant ce temps, trois hommes sont au front. Et on oublie parfois que la gestion de cette crise a des visages. Le président de l'Eurogroupe, bien sûr, Jean-Claude Juncker, celui de la BCE, Jean-Claude Trichet, et le commissaire européen aux marchés financiers, Michel Barnier. Que font-ils exactement, ces hommes-là? Qui sont-ils? Portrait et débat sur ce qu'ils peuvent faire ou non pour éviter le pire. Une eurodéputée qui les connaît bien, Sylvie Goulard, et notre correspondant à Bruxelles, Alain Franco, sont avec nous dans une dizaine de minutes. C'est un rapport assez sévère qui a été présenté aujourd'hui par l'Office fédéral de l'environnement sur le bilan écologique de la Suisse. En pointe, jusqu'aux années 2000, nous serions sur le déclin. Les objectifs non atteints de Kyoto pèsent évidemment sur ce bilan. N'empêche, la Suisse sort du nucléaire et quand on se balade chez les pays voisins, on se sent souvent plus vert qu'eux. Alors, doit-on rougir de notre situation écologique? Le débat ce soir avec les conseillers nationaux Anthony Hodgers et Guy Parmelin. On le sait, le mois de juillet est synonyme de vacances politiques, mais le PDC tient à ne pas se faire oublier. Il ponctuera l'été de propositions qu'il espère rafraîchissantes. En voilà une. Remplacer les cours de répétition par un congé paternité. Étonnant, original. Le père de cette proposition, Luc Bertassa, nous en dit un peu plus. En Valais, la politique sanitaire du canton à nouveau sous les critiques, sous la forme d'un référendum, cette fois que 11 000 Valaisans ont signé pour s'opposer à la loi sur les établissements sanitaires. De quoi fragiliser le conseiller d'État Maurice Tornet. Il est en vacances, c'est donc son collègue Claude Roch qui a dû réceptionner ses signatures. Mais qu'est-ce qui irrite tant les médecins valaisans dans cette loi? La doctoresse Monique Lecky-Hagen en débat avec le PDC Nicolas Voide. On appellera notre correspondant au Caire, Alexandre Bouchianti. La place Tahrir est toujours bondée, les élections reportées. Est-ce à dire que la révolution égyptienne est au point mort? Une début de réponse avec lui. Et enfin, le témoignage d'un hacker, ces pirates qui s'amusent à voler des mots de passe de militaires américains. Enfin, je dis s'amusent, les hackers, eux, prennent très au sérieux leurs actions. Notre invité y voit même une forme d'art. Vous l'entendrez, c'est vers 18h45. Et si vous aviez prévu un passage à Locarno au mois d'août pour le festival du film, eh bien, ne manquez pas Michel Masseret, notre journaliste culturel, nous rejoint en fin d'émission. Il nous détaille le programme du festival, dévoilé aujourd'hui même à la presse. Un temps changeant pour demain, de belles éclaircies en plaine, plus nuageux en montagne. Côté température, on atteindra les 23 degrés au maximum. Les détails d'Éric Fauchère, c'est juste avant 19h.
Forum, Nathalie Ducommun, Tatiana Odo.
C'est ce soir à minuit en France que les candidatures à la primaire socialiste seront bouclées et en l'état actuel des choses dans le camp PS, la course à la présidentielle 2012 sera bel et bien un duel entre l'actuel et l'ancien chef du parti, Martine Aubry, contre François Hollande. Et si l'on en croit les derniers sondages, eh bien François Hollande a toutes ses chances de devenir le prochain président de la République française. On vient de raccrocher au téléphone avec lui. Il se rêve en président normal. Mais François Hollande, qu'est-ce que c'est un président normal?
C'est un président qui en soit vrai, c'est-à-dire qui ait la hauteur de vue nécessaire pour conduire le pays et la proximité indispensable pour écouter les Français. Ce qui suppose d'avoir une cohérence, une constance, une maîtrise, un respect, une exemplarité. Bref, tout ce qui a été la marque à l'inverse de Nicolas Sarkozy.
Oui, évidemment. On comprend tout de suite la référence à cette caricature bling-bling dont on a beaucoup parlé de Nicolas Sarkozy. Bon, il a aussi été capable d'un certain, de certains retournements de veste. Et d'ailleurs, on le sent bien qu'il essaye aujourd'hui de se poser en président au-dessus de la masse, plus serein. On se souvient aussi que lors de la dernière campagne, le dernier face-à-face contre Ségolène Royal, il avait réussi à se faire passer pour le candidat serein, posé, à l'opposé du ministre qu'il avait été, en somme. C'est un danger? Vous craignez ce retournement de veste?
Non, je ne crains rien. Je sais qu'il essaiera de faire passer l'idée qu'il a changé. Il avait déjà en 2007 exprimé cette même aspiration, ne jamais être là où on l'attend et d'être déjà sur un autre registre. Donc aujourd'hui, il a, et c'était bien tard d'ailleurs, il a choisi d'être enfin dans les costumes du président, mais je pense que ça ne paraîtra que comme un travestissement.
D'ailleurs, est-ce qu'on peut être certain que Nicolas Sarkozy sera le candidat
Si, là, je le pense. Il sera le candidat parce que il a empêché à tout autre de pouvoir l'être. Regardez la manière avec laquelle il essaye, pour l'instant sans grand succès, d'empêcher toute autre candidature à droite que la sienne, y compris même celle du centre, est particulièrement découragée. Donc il ne fait pas de doute que Nicolas Sarkozy, sauf événement exceptionnel, sera le candidat de la droite, et il sera de toute façon un candidat dangereux, au sens où il n'a pas perdu l'élection présidentielle, même s'il est aujourd'hui très impopulaire. Il fera la démonstration qu'il est déjà président, donc qu'il peut le devenir ou le rester. Et puis il essaiera de faire peur, ça a toujours été sa manière de faire de la politique, c'est-à-dire de laisser penser que nul autre que lui n'est capable de conduire le pays, alors que je crois que depuis 5 ans, son bilan ne prête pas à la reconduction.
Alors avant de l'affronter, François Hollande, il va falloir vous faire plébisciter par vos camarades, les militants. Les derniers sondages en attestent. La première concurrente à battre pour vous sera Martine Aubry. Quelles sont vos armes face à elle ?
Mais je ne veux pas raisonner comme ça. Je n'ai pas d'armes particulières. Je suis candidat et donc c'est à moi de faire la démonstration que je peux, plus que d'autres, gagner l'élection et être un bon président pour la France. Ensuite, je n'ai pas une rivale en particulier, il y a d'autres candidats qui sont aussi respectables et qui méritent d'être respectés. Donc moi, je ne veux pas distinguer parmi les concurrents de la primaire, je veux surtout m'adresser aux Français et leur faire comprendre, et j'ai l'impression que pour l'instant ils y adhèrent, que j'ai à la fois une vision pour mon pays à travers le thème de la jeunesse qui doit être le cœur de nos priorités. J'ai une conviction, c'est qu'il faut une réforme fiscale si l'on veut permettre aux Français de prendre conscience que l'effort est nécessaire, mais qu'il doit être partagé. Et enfin, il n'y a pas de réussite possible s'il n'y a pas un pouvoir qui lui-même associe tous les acteurs publics et privés à la réussite commune.
Mais cette candidate-là, parmi d'autres, Martine Aubry, quels sont vos avantages à vous, comparé à elle ?
Ils n'ont pas à être démontrés par rapport à elle, ils ont à être démontrés par rapport à l'attente que les Français ont à l'égard d'un candidat pour l'élection présidentielle, c'est-à-dire qu'il faut que ce candidat ait toutes les capacités pour pouvoir mener une campagne qui sera difficile, pour faire prévaloir ses arguments et pour avoir la popularité nécessaire pour battre Nicolas Sarkozy. Et aujourd'hui, c'est vrai que je suis plutôt reconnu comme étant un candidat qui dispose de ces caractéristiques. Mais enfin, on verra ce que seront les sondages dans quelques semaines. Ce qui compte, c'est de suivre son chemin et pas de chercher je ne sais quelle distinction. Elle est finalement inutile. Moi, je ne suis pas candidat par rapport à d'autres. Il y a plusieurs mois, quand j'ai annoncé ma propre candidature, c'est Dominique Strauss-Kahn qui devait être mon concurrent. Et on me posait toujours la même question. Mais qu'est-ce qui vous distingue de Dominique Strauss-Kahn ? Alors maintenant, on me pose une autre question.
Oui, effectivement. Mais c'est vous qui mentionnez Dominique Strauss-Kahn avant moi. Donc, je saisis la perche, François Hollande. Oui. On ne va pas rentrer dans les détails de l'affaire. Bien évidemment, il n'est plus du tout dans la course. Ce qui est cependant probable, on a beaucoup parlé d'impact, etc., avec Martine Aubry, c'est qu'à un moment, il sort de sa réserve et puis il donne son soutien à Martine Aubry. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous redoutez en l'état actuel ?
Non, je ne redoute en rien cette événement, s'il se produit, je n'en sais rien. Dominique Strauss-Kahn aura le droit de faire tout ce qu'il pensera devoir faire lorsqu'il aura retrouvé à la fois son honneur, sa liberté, son innocence. Et s'il veut soutenir Martine Aubry, ben, il soutiendra Martine Aubry. Ça ne changera en rien, à mon sens, le regard qu'ont les Français sur ma propre candidature.
François Hollande, vous mentionniez des dossiers qui vous sont chers, la jeunesse, la fiscalité en France. Il y a toujours quelque chose d'assez paradoxal dans les présidentielles françaises, c'est que les candidats doivent faire campagne sur des sujets qui touchent au quotidien des Français, des sujets nationaux, alors que quand on accède à la fonction, eh bien, on doit décider de poursuivre la guerre en Libye ou de contribuer à sauver la zone euro. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce paradoxe ?
Oui, vous avez raison. Souvent, les campagnes électorales sont déconnectées d'une réalité qui, pourtant, devient dominante lorsque l'élection s'est faite. Et ça a conduit un certain nombre de candidats qui ont été élus à cette fonction à être rapidement en décalage par rapport aux promesses qu'ils ont pu faire. Nicolas Sarkozy en est une bonne illustration. Il ne suffit pas de dire que tout deviendra possible ou que travailler plus permettra de gagner plus. Il faut être capable ensuite de traduire ces engagements dans les actes. Et c'est ce qui explique la défiance qui est très grande à l'endroit, non pas simplement du pouvoir actuel, mais à la guerre de la politique. Et moi, ma démarche, c'est de faire tout à fait différemment. C'est-à-dire de porter un devoir de vérité. Il y a des contraintes qui sont très fortes, il y a une situation qui est exceptionnellement difficile, mais en même temps, un devoir de volonté. Il y a des domaines où nous sommes capables, si nous organisons mieux, si nous faisons l'effort, et de consacrer les marges de manœuvre à la réussite commune, et quand je parle de la jeunesse, c'est pour évoquer de la petite enfance jusqu'à l'entrée dans la vie active, toutes les étapes qui doivent conduire les jeunes à réussir leur vie. Et réussissant leur parcours, ils permettront le redressement du pays.
François Hollande, j'aimerais qu'on termine ce bref entretien en revenant sur votre personne. C'est comme ça qu'on a commencé. On vous connaît effectivement de Suisse. Certains vous connaissent bien d'ailleurs. Il y a des fans. On lit des éditoriaux chez nous en votre faveur. Mais François Hollande, ce qui transparaît aussi de vous, de ce que vous êtes, c'est de l'humour. Vous êtes connu pour être un homme drôle, incisif. Certains regrettent que vous le soyez moins depuis que vous êtes entré en campagne présidentielle. Politique et humour, ça ne fait pas bon ménage.
Vous savez, quand la situation est difficile, quand le moment est grave, l'humour n'est pas forcément toujours bien compris. Et moi, j'avais à prendre la mesure de ce que les Français attendaient d'un prochain président de la République. Mais je veux rassurer ceux qui me connaissent et qui apprécient les ironies, les sorties quelquefois grinçantes que j'ai pu faire quand j'étais en responsabilité du Parti Socialiste. Je pense que l'humour fait partie de la vie. Et souvent, l'esprit, la causticité ouvre les caractères, détend les individus, leur permet d'entendre un message qui ne serait pas venu jusqu'à eux. Et puis Nicolas Sarkozy est un formidable sujet pour me donner l'occasion d'être drôle.
Vous avez plus d'humour que lui, vous pensez ?
Il n'en est pas dénué, mais souvent au détriment des autres. Alors que le trait particulier de l'humour, c'est quand on est capable de rire de soi-même.
François Hollande, une autre personnalité qui ne manque pas d'humour parfois malgré elle, c'est Jacques Chirac. Il va voter Hollande. C'est avantage ou inconvénient ?
Et il a dit que c'était de l'humour.
Justement.
C'est pour ça que je l'apprécie. Je veux dire par là le sens de l'humour de Jacques Chirac. Je crois qu'il ne voulait pas que sa parole puisse connaître le retentissement qu'elle a eu. Il avait le souci de ne pas faire une déclaration politique. C'était simplement un geste sympathique, humain. Et finalement, ce sont ces gestes-là qui restent dans les mémoires. Moi, je n'attendais pas à ce que Jacques Chirac, homme de droite que j'avais combattu pendant des années, me fasse un compliment. Mais en même temps, je ne me suis pas plaint qu'un homme qui n'avait plus rien à espérer, qui avait tout emporté, tout gagné, finalement cette reconnaissance que, au-delà de notre Corrèze commune, nous ayons le même souci, la même générosité par rapport aux autres. Parce que c'est ça qui fait le sens de la politique, c'est-à-dire pas simplement une poignée de main rapidement échangée, pas simplement une marque comme ça de circonstance dans le cadre d'une campagne électorale, non, une espèce de confiance dans l'être humain, de penser que la politique c'est l'art de mettre une collectivité en mouvement, dans l'enthousiasme.
Voilà, c'était François Hollande, candidat socialiste à la présidence de la France en 2012.
Infotrafic RSR.
Sur l'autoroute Yverdon-Lausanne, un accident est survenu entre l'aire de service de Bavois et la jonction de la Sarra en direction de Lausanne. La voie de gauche est bloquée et un bouchon s'est formé sur ce tronçon.
Les divergences au sein de la zone euro ne cessent de s'accentuer à mesure que la crise s'approfondit. Paris et Berlin n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur la convocation d'un sommet au plus haut niveau pour freiner la contagion à d'autres pays européens. D'un côté, la chancelière allemande Angela Merkel estime qu'il n'y a pas d'urgence. Elle subit d'ailleurs la critique à peine voilée du président de sa propre banque centrale. Et puis de l'autre, Nicolas Sarkozy et la Commission européenne font pression pour que le sommet ait lieu d'ici dimanche. En attendant, trois hommes sont au front. le président de l'Eurogroupe, bien sûr, Jean-Claude Juncker, le président de la BCE, Jean-Claude Trichet, et le commissaire européen au marché financier, Michel Barnier. Alain Franco, vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Avant de débattre de ce que peuvent faire ces trois hommes pour éviter le pire, vous nous dressez leur portrait. On commence par Jean-Claude Juncker.
Oui, Jean-Claude Juncker, c'est Monsieur Euro, Premier ministre de Luxembourg depuis 1995, président de l'Eurogroupe. Il est la preuve qu'on peut venir d'un des plus petits États de l'Union et être l'un des hommes les plus influents du Conseil européen. Juncker en est aussi le doyen de ce Conseil. Il influence en coulisses. Sarkozy lui a reproché son retard à l'allumage dans la crise financière de 2008. Et trois ans plus tard, Juncker aimerait sortir par le haut de la crise de la dette publique, notamment en instaurant des eurobonds qui renforce la cohérence de la zone euro en mutualisant la dette des États. Il sait prendre des risques, reconnaît un de ses adversaires politiques, à son passif. On dira qu'aujourd'hui, on sent Juncker moins allant, pas encore découragé, mais sûrement quelque peu désabusé.
Et alors le second, que peut-on dire de Jean-Claude Trichet ?
Ah, on dit quand Trichet parle, c'est dans l'intérêt de tous. C'est en tout cas ce que dit un diplomate. Et c'est vrai que le président de la BCE est l'homme chargé de maîtriser l'inflation. Depuis le début de cette crise, l'ancien banquier central français a su prendre les mesures qui s'imposaient en allant au-delà du dogme de la banque centrale. Il a autorisé le rachat de dettes grecques, ce qui n'a pas du tout, mais pas du tout, plu aux Allemands. Mais certains lui reprochent de n'avoir pas su anticiper. Toutes les dérives se sont faites sous son mandat. Il n'a pas tiré les signaux d'alarme, dit Pascal Canfin, eurodéputé vert.
Et puis le troisième, c'est le commissaire au marché intérieur, Michel Barnier.
Oui, Barnier, c'est l'homme chargé de l'après-crise, pour autant qu'on en sorte. L'homme qui a pour mission d'empêcher que ça recommence. Il a lancé sa fusée à plusieurs étages pour réguler les marchés. Hedge funds, bonus, agences de notation sont sur son écran radar. Barnier est un vrai gaulliste à la française qui se bat pour que les États gagnent leur bras de fer contre les marchés. Sincère dans ses engagements, c'est un vrai politique qui a le sens du compromis et qui a su s'entourer d'une équipe de bons professionnels. Il faut dire que dans une commission faible, composée de beaucoup de second couteau, Barnier n'a pas de mal à sortir du lot. Comme dit un eurodéputé qu'il pratique aussi souvent que Sylvie Goulard, lui au moins ne se contente pas de répéter le catéchisme de la commission, il fait bouger les lignes.
Alain Franco, merci.
Et Alain, vous restez avec nous. Sylvie Goulard, vous la mentionnez, elle est avec nous. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes eurodéputée libérale, élue sur la liste du Modem. Vous êtes membre de la Commission économique et monétaire du Parlement européen. C'est dire si vous les connaissez, ces trois hommes dont on vient faire le portrait. Sylvie Goulard, d'abord, cette question toute simple. C'est vrai qu'on peine souvent à mettre un visage sur les gens qui œuvrent au plus haut niveau. On voit bien qui est Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. L'Union européenne, on la connaît moins, elle est plus complexe institutionnellement. Vous les voyez, ces hommes-là, ils sont dans quel état d'esprit ?
Alors, tout d'abord, si vous voulez, ce qui est assez amusant, c'est que vous avez tellement cherché des visages que, par exemple, vous ne parlez pas d'un certain nombre d'autres. Il n'y a pas que trois acteurs, ça serait presque trop simple. Et un des vrais problèmes en ce moment, c'est que, par exemple, ne serait-ce que dans la gestion de crise, il y a un autre commissaire qui s'appelle Olli Rehn, qui est finlandais, qu'on connaît moins bien, en France surtout, peut-être en Suisse est-il plus connu, qui est quelqu'un de grande valeur et qui est en charge des questions économiques et monétaires. Il y a M. Van Rompuy qui est le président stable du Conseil européen. Je crois que l'Europe a trop éparpillé les compétences. C'est la première chose. Ensuite, comme personne, ils ont leurs qualités. Moi, je ne suis pas là pour distribuer les bons et les mauvais points. Mais il est très très clair que vous avez des personnalités qui s'appuient sur des structures solides ou d'autres qui sont un peu dans le vide. Et M. Trichet a des qualités personnelles indéniables, mais il a aussi bénéficié du fait que la Banque centrale et la seule autorité claire de la zone euro fédérale, dotée de pouvoirs clairement définis, indépendantes. Et il a même pu transgresser en partie les règles quand ça a été nécessaire, avec l'appui de son directoire et du Conseil des gouverneurs. À l'inverse, je crois que Jean-Claude Juncker souffre beaucoup de ce que l'Eurogroupe est toujours resté une structure informelle. Michel Barnier, ça a été dit, souffre aussi d'être...
Structure informelle, pardonnez-moi, Sylvie Goulard, qu'est-ce que vous entendez exactement par là ? Parce que l'Eurogroupe, on a l'impression que c'est très important.
C'est tellement fou que quand on y pense, c'est vraiment une des questions clés de l'avenir. Nous avons considéré au départ, quand nous avons fait la monnaie, qu'il ne fallait pas creuser le fossé entre les États membres de la zone euro et ceux qui, provisoirement à l'époque, pensait-on, restaient en dehors. Il y avait les futurs pays de la zone euro, et puis même ceux qui avaient dit non, mais dont on pensait qu'ils changeraient d'avis. Et on a du coup donné les compétences à la structure normale qui est dans les traités, qui est le Conseil des ministres, le Conseil ECOFIN, on dit dans le jargon. Donc les 27 ministres des Finances à l'heure actuelle. Mais on voit bien en ce moment que la crise de la zone euro appellerait sans doute un certain nombre de décisions beaucoup plus fortes. Or, M. Juncker n'est que, en quelque sorte, l'animateur de ce groupe qui, encore une fois, n'a pas le pouvoir de prendre juridiquement les décisions.
Oui, Alain Franco, j'aimerais vous entendre sur ce paradoxe. Alors, Sylvie Goulard nous dit, oui, il y a d'autres personnalités, c'est peut-être bien là, effectivement, le problème de cette zone euro. Mais ce paradoxe entre le fait qu'ils sont au front, ces trois hommes, on imagine qu'ils travaillent nuit et jour, vu la situation, et en même temps, ils n'ont pas tous les pouvoirs nécessaires. Ça doit être terriblement frustrant, d'abord. Et ensuite, à quel point est-ce que ce paradoxe est handicapant, selon vous ?
Ils ont chacun une fraction de pouvoir et c'est l'addition de ces fractions qui fait un pouvoir général. Et c'est là un petit peu où le bât blesse en ce moment, c'est que chacun a son propre agenda et puis chacun essaye bien sûr de garder une genre de vue d'ensemble et d'aller vers l'intérêt commun. Mais c'est pas toujours facile. Trichet, il doit défendre l'intérêt de tous bien sûr, mais il a aussi en tête l'intérêt de son institution qui par exemple a racheté de la dette grecque et qui ne peut pas, tout envoyer par-dessus bord, qui doit garder, il a de la dette grecque dans son bilan, il doit faire attention à ce qu'il fait. Bon, c'est pareil, Barnier, c'est l'homme de la Commission européenne. Alors, quand il doit négocier avec le Conseil et avec le Parlement, il a aussi en tête la décision collégiale qui a été prise par sa commission. Vous voyez ? Et le problème, il est là, c'est qu'on n'a pas quelqu'un, quelque part, qui peut avoir cette vue d'ensemble et qui peut parler au nom de tous. C'est notamment une des propositions qu'a fait Jean-Claude Trichet, qui est sur le départ maintenant, et qui a dit qu'il faut un ministre des Finances de l'Union Européenne. On ne sait pas trop ce qu'il y aurait dedans, mais l'idée est lancée.
J'aimerais bien rebondir là-dessus, parce que c'est typique aussi de... Si vous voulez, d'abord, vous avez complètement omis que il y a les États membres, c'est-à-dire que chaque ministre des Finances continue à s'exprimer, on l'a vu avec M. Schäuble, Mme Lagarde avant qu'elle aille au FMI, etc. Donc, encore une fois, nous avons fait le choix, au moment qui était provisoire et transitoire, je le répète, au moment de la création de l'euro, de dire les États membres conservent des politiques économiques séparées qu'ils vont simplement coordonner. Mais les pères fondateurs de l'euro voulaient aller plus loin. Alors maintenant, quand on entend ces propositions de ministre des Finances européens ou cette vieille lune française du gouvernement économique. Moi, je suis très inquiète, pas parce que je suis parlementaire, mais au contraire, je suis allée au Parlement parce qu'il me semble que nous avons vraiment besoin de rendre légitimes les décisions des organes européens. C'est pas en créant un monsieur ou un madame euro, si brillant soit-il...
Bon, s'il est élu démocratiquement, il sera légitimé.
Mais est-ce que c'est ça qu'on a en tête pour l'instant, c'est pas clair. Et même le gouvernement économique, comment s'opère la répartition des compétences si, par exemple, les aides viennent des budgets nationaux? Donc, à l'évidence, on a là un énorme chantier devant nous, mais c'est pas dans un pays fédéral que je dirais qu'il n'y a pas toujours des questions à régler entre les différents niveaux de compétences.
On a la preuve, nous, la Suisse, que ça peut marcher, Sylvie Goulard. Mais au-delà de ça, j'aimerais juste conclure.
Quand même, si je puis me permettre, ça s'appelle une confédération, mais vous avez quand même des structures qui sont très clairement fédérales, ce qui veut dire, ce que les Français ne comprennent pas parfois, qu'il y a beaucoup de pouvoirs délégués, enfin, qui appartiennent aux entités, mais qu'il y a aussi la mise en commun réelle et sans volonté de garder chacun son petit bout de steak au niveau fédéral. Donc c'est vers cette démarche-là qu'il faut aller et encore une fois, effectivement, avec une certaine dose de démocratie qui pour l'instant n'existe pas.
Sylvie Goulard, j'aimerais vraiment qu'on conclue sur ces trois hommes, Jean-Claude Juncker, Trichet et Barnier. Alain Franco nous disait, ben voilà, leurs pouvoirs sont morcelés. On s'imagine qu'une clé du succès, ce serait déjà que ces trois hommes s'entendent bien. Est-ce que c'est le cas ?
Écoutez, moi, je n'ai pas connaissance de problèmes de personnes. Sincèrement, ce sont tous les trois des politiques chevronnés ou des techniciens chevronnés, s'agissant de M. Trichet, qui n'a pas eu de mandat politique. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est aussi le contexte. Hein. M. Juncker a été une époque véritablement l'appui du franco-allemand. Il a joué un rôle extraordinaire au moment de la création de l'euro. On sent bien aujourd'hui qu'il souffre aussi de l'éloignement de la France et de l'Allemagne, qui est probablement l'inquiétude la plus grande qu'on puisse avoir sur la zone euro en ce moment.
Oui, c'est malheureusement un chapitre qu'on va pas pouvoir aborder ce soir, ce couple franco-allemand, mais effectivement, vous pointez le doigt dessus. Vous avez bien raison, Sylvie Goulard. Je vous remercie beaucoup d'être intervenue ce soir dans Forum. Merci Alain Franco.
Merci.
Vous êtes notre correspondant à Bruxelles. Bonne soirée.
La Suisse n'a pas atteint ses objectifs en matière de changement climatique et de conservation de la biodiversité, alors qu'elle était à la pointe sur les questions environnementales jusqu'à l'an 2000. Eh bien, elle s'est ensuite un peu endormie sur ses lauriers et depuis une dizaine d'années, eh bien, les progrès stagnent. Le rapport biannuel sur l'environnement publié aujourd'hui dresse un tableau peu réjouissant de la situation. On va en parler avec nos deux invités. Anthony Hodgers, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes conseiller national vert, je le vois en direct de notre studio de Genève. Peu de progrès ces 11 dernières années. Vous l'avez aussi vous-même constaté, ça vous inquiète, cette sorte d'endormissement un petit peu
Effectivement, pour les Verts, ce rapport n'est pas vraiment une surprise. Ça fait un moment que l'on dit qu'on s'est endormi sur nos lauriers, vous l'avez dit. C'est-à-dire que la Suisse a des conditions de base qui sont bonnes, une tradition de protection de l'environnement qui est de qualité, des infrastructures publiques qui permettent aussi les alternatives, notamment à la voiture. Mais cependant, malgré, je dirais, toutes ces qualités de base, elle n'a pas fait d'efforts suffisants pour atteindre déjà ses propres engagements. Et d'autre part, ces efforts se sont aussi révélés insuffisants par rapport à d'autres pays européens qui, eux, peut-être parce qu'ils partaient de plus loin, ont fait des efforts considérables. Et aujourd'hui, ils sont, certains nous ont rattrapés, certains sont en passe de nous rattraper, mais le trend montre que parmi nos voisins européens, on a été beaucoup plus vite et beaucoup plus loin en matière environnementale et qu'en Suisse, finalement, on s'est un peu laissé faire avec une auto-perception très valorisante en disant « mais nous, les Suisses, on est les champions de l'écologie », ce qui, on le voit dans ce rapport, n'est pas vrai dans tous les secteurs, même si, globalement, il faut reconnaître que la Suisse et les citoyens suisses sont en général relativement attentifs à ces questions-là.
Guy Parmelin, vous êtes également avec nous, conseiller national UDC Vaudois, membre de la commission de l'environnement. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez également consulté ce rapport des progrès qui stagnent depuis l'an 2000. Vous, ça vous préoccupe moins ?
Écoutez, c'est toujours la même chose. C'est le verre à moitié vide ou à moitié plein. D'ailleurs, le titre du communiqué de presse de l'Office fédéral est clair à ce niveau-là. Il parle de succès et de défis. On peut toujours faire mieux et je crois que la Suisse continue à chercher des solutions pour améliorer la situation, mais l'Office relève aussi des succès considérables en matière de lutte contre la pollution due aux métaux lourds, par exemple, aux polluants organiques persistants. De ce côté-là, il y a des choses qui ont été faites. Il y a aussi en matière agricole, même si tout n'est pas parfait, on voit que certains éléments de la politique agricole portent leurs fruits. Si je prends simplement un domaine que je connais bien, la viticulture, on a diminué pratiquement de 2/3 les apports d'engrais au niveau viticole et on pratiquement dans tout le vignoble suisse maintenant la lutte contre la lutte je dirais naturelle contre certains ravageurs
fait assez, est-ce que ça justifie de ralentir la pression?
Alors, je crois pas qu'on ralentit, mais M. Hodgers l'a bien dit, des pays sont en train peut-être de nous rattraper parce qu'ils partent de beaucoup plus loin. Et plus vous approchez, plus vous vous perfectionnez, plus pour atteindre le dernier point qui pose encore problème, les coûts sont plus élevés et c'est plus difficile d'atteindre la cible. Mais la politique est aussi faite de contradictions. Prenez simplement, et c'est relevé aussi dans le rapport, que la problématique des importations, la Suisse vit énormément d'importations à tous les niveaux, et la problématique des transports, quelque part, pose problème au niveau du climat de manière globale, puisqu'il n'y a pas de frontières au niveau du climat, et en matière agricole, c'est criant. Si on devait signer un accord, par exemple, de libre-échange agricole avec l'Union européenne, ce sont une augmentation des transports de marchandises qui va se voir, et donc des perturbations au niveau du climat. Donc, c'est pas si simple. Je le répète, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. On doit poursuivre les efforts. Je crois qu'on le fait. Mais naturellement, que plus on approche de l'objectif, plus c'est difficile d'arriver au point zéro, si vous me passez cette expression.
Anthony Hodgers.
Oui, c'est vrai, chers collègues, sur un certain nombre de sujets. Vous avez cité les questions de pollution, métaux lourds, dioxine aussi. Vous vous souvenez tout le débat sur l'ozone, la protection, la couche d'ozone qu'on a eu il y a quelques années. Ça, c'est des choses qui se sont nettement améliorées en Suisse comme en Europe. Mais quand même, Monsieur Parmelin, par exemple, je vais vous citer deux exemples pour lesquels c'est pas qu'on est devant et on se fait rattraper, c'est qu'on est pratiquement dans les derniers. C'est tout d'abord en termes de taux de motorisation. Donc les Suisses sont les Européens qui ont le plus de voitures par nombre d'habitants et ce sont les voitures les plus polluantes en matière de CO2. Et là, c'est pas qu'on était meilleur et puis que les gens nous rattrapent, c'est qu'on est les plus mauvais. Les plus mauvais, même les Français ont moins de voitures par habitant que les Suisses, alors que c'est un pays, on sait combien il est beaucoup plus grand, il a beaucoup moins d'infrastructures ferroviaires, etc. Ça, c'est un exemple qui aboutit à ce constat qu'il y a dans ce rapport, c'est que la Suisse, en matière de ses engagements par rapport au protocole de Kyoto, c'est-à-dire la baisse des émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2010 a fait zéro, c'est-à-dire n'a pas réussi à baisser ses émissions, alors que l'Union européenne, dans son ensemble, a fait moins 7%. Donc là, on voit que l'ensemble des autres pays ont fait mieux que nous. Deuxième exemple, c'est celui des déchets. Et ça, j'étais surpris de constater que les Suisses, on est parmi les Européens qui faisons le plus de déchets urbains. On fait 750 kilos de déchets par an. Là encore, les Français en font 550. Donc, on voit que dans deux domaines importants de l'impact environnemental, malheureusement, on n'est pas premier classe, on n'est même pas au milieu de la classe, on est carrément bonnet d'âne.
Alors, Guy Parmelin, pour répondre à cela, sur la motorisation, hein,
oui,
on est pire que les Français.
J'ai pas eu le temps de lire les 102 pages du rapport cet après-midi. Donc ça c'est clair. Par rapport à la motorisation, M. Odgers le sait bien, le Parlement s'est occupé dernièrement de l'initiative anti-4x4 lancée par son mouvement. On est à bout touchant par rapport à la révision de la loi. Il ne faut pas oublier aussi que dans notre pays, il y a des effets d'immigration aussi importants. Nous avons 10 000 personnes, si on prend le canton de Vaud, qui sont prévues ces prochaines années, chaque année, de nouvelles personnes qui vont habiter en Suisse. Ces personnes se déplacent naturellement, ça utilise une certaine motorisation. Les grandes usines de construction de véhicules sont aussi à l'étranger, et c'est clair qu'on dépend aussi des normes d'émissions de ces pays. On doit faire des progrès, il y a eu un compromis péniblement accouché au niveau du Parlement à ce niveau-là, mais enfin, il va progressivement entrer en vigueur et la Suisse va progressivement rejoindre l'Union européenne sur ce point.
Mais quel progrès êtes-vous prêt à faire?
Je vais terminer, ça rejoint ce qu'on a dit
compromis, monsieur Parmelin, que vous avez refusé, vous l'UBC.
On n'est pas tout de suite dans les meilleurs partout. Il y a des endroits où nous sommes en avance, il y a des endroits où nous allons rattraper notre retard, et c'est typiquement un endroit où les efforts vont porter leurs fruits et où l'industrie automobile fait aussi les efforts nécessaires.
Mais quel progrès ou effort êtes-vous prêt à faire?
Pardon?
Quel progrès ou quels efforts êtes-vous prêt à faire?
Alors, au niveau du pays, la loi sur le CO2 qui sert de contre-projet à l'initiative qui a été lancée par certains milieux va passer, une fois qu'elle aura passé le cap du Parlement, on verra s'il y a un référendum ou pas à ce niveau-là. Mais en matière de véhicules, les décisions ont été prises. Nous verrons maintenant ce qui va se passer au niveau de la procédure parlementaire et de la procédure devant le peuple. Je n'ai pas idée, je ne sais pas s'il y aura un référendum, si les initiants retireront définitivement leur initiative ou pas. Ça, c'est de la musique d'avenir. Mais nous avons aussi un développement très important au niveau des transports publics, peut-être plus aussi dans certains pays, ce sont des coûts aussi. Les Suisses sont les champions de l'utilisation des trains et des moyens des transports publics. C'est aussi quelque chose qu'il faut relever.
Alors on va conclure avec vous, Antonio Gerson.
Oui, donc, ça me fait sourire parce que le contre-projet auquel M. Parmelin fait référence, donc à l'initiative anti-4x4 qui vise à fixer une moyenne d'émission de CO2 aux nouveaux véhicules, ou encore le développement des transports publics, ce sont tous des projets auxquels l'UDC s'est opposé. Donc aujourd'hui, Monsieur Parmelin, vous faites comme si c'était vos succès. Vous faites comme si c'était votre succès, ces alternatives, alors qu'en fait, c'est tous des projets auxquels vous vous êtes opposé. Et je pense que si le ralentissement... Laissez-moi finir, Monsieur Parmelin. Mais non, en Suisse, on ne dépend pas de l'étranger en fonction
de
niveau de motorisation. Mais Monsieur Parmelin, vous savez très bien que les motorisations ont nettement été améliorées par les fabricants et que ceci, c'est gains écologiques qui ont été faits ont complètement été anéantis par l'augmentation du nombre de véhicules et leur usage en Suisse. Donc, au bout d'un moment, il faut être cohérent, monsieur Parmelin. Vous savez, l'agriculture suisse, vous savez, le tourisme suisse souffre du réchauffement climatique. Et donc, il faut mettre en place des politiques volontaristes pour que l'on cesse d'être sur la queue du peloton. On est un des pays les plus riches du monde, un pays les plus riches d'Europe. On peut se permettre d'avoir une politique ambitieuse pour notre propre bien et pour le propre futur de notre économie.
Ah, il va falloir conclure.
En véhicule automobile, exiger qu'on ait des particularités par rapport à des chaînes de montage, par rapport à
des différents. Mais c'est pas ça,
Guy Parmelin.
C'est absolument pas ça. Relisez notre loi. Relisez notre loi. C'est absolument pas ça.
Guy Parmelin, merci d'avoir été avec nous quelques instants. Antonio Gers également. Bonne soirée à vous deux.
Bonne soirée. Merci.
Oui, c'est un détour par la route qui est prévu. Merci.
Infotrafic RSR.
Vous dire que toujours ce bouchon sur l'autoroute Yverdon-Lausanne entre l'aire de service de Bavois et la jonction de la Sarra en direction de Lausanne. Et le trafic reste en outre fortement surchargé sur l'autoroute Genève-Lausanne entre l'aéroport de Genève et sur le pont de la Versoie en direction de Lausanne, ainsi que sur le contournement de Genève entre l'échangeur de Perly et le poste de douane de Bardonnay en direction de la France. Luc Bartassa, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous en direct. Je crois que vous êtes en balade, en vacances, mais ça ne vous empêche pas de travailler, Luc Bartassa, et de proposer des idées. Remplacer les cours de répétition par un congé paternité lors de la première année de son enfant. Votre idée, c'est que le jeune père n'aurait pas besoin de revêtir l'habit gris vert. Il pourrait s'occuper de son bébé. C'est quoi ce lien entre armée et paternité, Luc Bartassa?
Oui. Écoutez, on parle beaucoup du congé paternité et surtout les gens disent que ça coûterait très cher. Donc l'idée m'est venue de profiter justement de pouvoir prendre un congé paternité de 3 semaines plutôt que d'aller à un cours de répétition l'année où on deviendrait papa. Et ça coûterait pas plus cher, c'est la caisse de compensation qui payerait comme si la personne était en fait à son cours de répétition. Ça coûterait pas plus cher au patron ni à la Confédération. Et je pense que ça pourrait donner, ça faire partie de ces petites choses qui pourraient donner une bonne image de l'armée qui en a tant besoin ces derniers temps.
Alors pour le PDC, en fait, avoir des enfants, c'est une autre manière de servir la patrie.
Alors, on peut appeler ça comme ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui s'engagent à faire leur armée, qui s'engagent de manière à servir la patrie. Il y en a d'autres qui sont un peu plus réticents. Il y a beaucoup plus de gens maintenant qui partent pour le service civil. Donc, c'est une manière aussi, justement, de récompenser quelque part ceux qui se donnent encore la peine d'aller à l'armée, au service de la patrie, comme vous le dites. Oui, il n'y a pas
de... Ceux qui, justement, désirent faire l'armée, ils profitent de rien. Ils auraient trois semaines pour faire autre chose, disons.
Disons que ceux qui n'ont pas d'enfants, eh ben, feraient leur armée comme tous les autres. Et puis, celui qui deviendrait papa aurait ce petit plus à disposition l'année où il deviendrait papa, de pouvoir prendre ses 3 semaines en restant à la maison. Quand on sait que c'est tellement important, moi qui étais père, j'étais indépendant, donc j'ai pu me débrouiller de rester ces premières semaines à la maison. Et je pense que c'est une étape de la vie qui est importante de pouvoir la vivre avec sa femme et le nouveau venu.
Luc Bartassa, conseiller national PDC, vous êtes jeune voix. Vous avez déjà fait cette proposition, hein, en 2009. Puis c'était sans succès. Pourquoi est-ce qu'elle aurait plus de chance cette fois?
Alors écoutez, je crois que par rapport à tout ce qui se passe sur l'armée et puis tout ce qui se passe aussi au niveau du congé paternité, hein, Travail Suisse l'a aussi démontré, les sondages évoluent dans le bon sens, les gens se disent que ça pourrait être quelque chose de bien. Et je reviens avec cette idée parce que étonnamment, certains qui étaient un petit peu dubitatifs se disent pour finir que ça pourrait être une bonne idée. Et surtout mon parti qui soutient justement cette idée à partir de cette année, j'ai essayé de changer les choses au niveau de la loi, au niveau du militaire. À l'époque, et ça n'avait pas passé la rampe, de peu de choses, si je me souviens bien. Donc, les mentalités évoluent. On revient avec cette idée-là et en force.
Luc Bartassa, juste pour conclure très brièvement, vous n'abandonnez tout de même pas l'idée de ce fameux congé paternité? Ou bien vous mettez une croix dessus, vous dites on n'y arrivera jamais, autant proposer d'autres choses?
Non, pas du tout, justement. C'est le fait de faire un petit pas en avant en touchant une idée qui, justement, ne coûterait pas plus cher, puisque c'est surtout ça qui pose problème. Tout le monde, quand on cherche un petit peu à
évoluer
au niveau social, c'est le financement.
Bien
et
sûr.
Là, ben, avec cette idée-là, on fait un pas dans la bonne direction, mais on n'abandonne pas du tout le congé paternité. Moi, je pense que c'est quelque chose de très important. Mais c'est vrai que vu que les finances actuellement, il faut trouver des solutions qui ne coûtent pas cher ou qui ne coûtent pas plus cher, et je pense que c'en est une bonne.
Luc Bartassa, je vous remercie d'avoir été quelques instants avec avec nous. Bonne soirée.
C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à tous. Au revoir.
Et on se rend à Genève où le procès de la débâcle de la Banque cantonale de Genève s'est achevé. Aujourd'hui, après 6 semaines d'audience, un procès très politisé, très technique aussi, où il a beaucoup été question de comptabilité bancaire. Un procès extrêmement médiatisé du côté de Genève, évidemment, qualifié de procès de la décennie. Sylvie Belzer, on vous retrouve en direct dans notre studio. Vous avez suivi ce procès pour nous. Alors, quel bilan tiré de ces longues semaines d'audience ?
Eh bien, c'est un peu paradoxal, mais je dirais qu'à 12h20, quand le président du tribunal a officiellement prononcé la clôture des débats, tout le monde a poussé un ouf de soulagement. La justice d'abord, parce que ce procès a pu être mené à terme, malgré les multiples recours, malgré le procès avorté de l'automne dernier, malgré les menaces de récusation qui pesaient encore sur le président du tribunal, bien après la réouverture des débats. Soulagement aussi pour le procureur qui voulait ce procès, qui en avait fait un thème de campagne. Un procès qui répond quand même à une certaine forme de vindicte populaire. Soulagement même pour les prévenus qui peuvent désormais retourner leur vie après 10 ans d'une instruction qui les a beaucoup malmenés. Des hommes devenus pour certains des inculpés professionnels tant leur vie a été conditionnée par ce procès et sa durée. Dominique Ducret, l'ancien président Marc Fuss, le directeur général René Curtis, son adjoint et les deux réviseurs externes n'auront plus besoin de prendre place sur le banc des accusés, de voir leur nom s'étaler dans les médias. Pour eux, la page est désormais presque tournée, malgré les recours qui vont inévitablement être lancés à l'annonce du verdict dans une dizaine de jours.
Alors on dit affaire de la décennie, le risque c'est que la montagne accouche d'une souris.
C'est bien toute la question. On a voulu ce procès, beaucoup en tout cas l'ont voulu. Y aura-t-il pour autant condamnation ? Ces hommes se sont-ils vraiment rendus coupables de gestion déloyale aggravée et de faux dans les titres ? On a beaucoup parlé chiffres, provisions, comptabilité bancaire, mais l'intention y était-elle ? On a découvert une commission fédérale des banques bien impuissante à contrôler autant d'établissements dans une période de crise immobilière aiguë. On a vu des politiques aux exigences irréalistes, ne pas licencier, verser des dividendes, fermer les yeux pour ne pas voir le désastre. Et tous les témoins qui ont défilé ont insisté sur l'intégrité, la loyauté, la volonté de ne rien cacher de ces hommes confrontés à une tâche qui les dépassait. Et sans doute, c'est vrai, cette tâche les dépassait-elle vraiment ? Pour autant, la négligence et l'incompétence ne sont pas punissables, reste l'intention. Là-dessus, ce sera au tribunal de trancher. Il rendra son verdict le 22 juillet en principe.
Sylvie Belzer, merci. En Valais, le référendum contre la loi sur les établissements et institutions sanitaires a recueilli plus de 11 000 signatures, ceci alors que 3 000 sont nécessaires. Le comité référendaire conteste la version actuelle de la loi, acceptée par le Grand Conseil valaisan le 17 mars dernier. Il demande une loi pour une prise en charge optimale des patients valaisans. Monique Lekiagen, vous êtes présidente du comité référendaire. Vous êtes avec nous en direct de notre studio de Sion. Vous avez conduit la fronde des médecins. Ce référendum, visiblement, fait un tabac. Vous aviez estimé au moment du vote de la loi que les demandes des médecins n'avaient pas été entendues. Vous aviez souhaité la modifier. Aujourd'hui, vous prenez une sorte de revanche. Les politiques n'ont rien compris dans cette affaire.
Bonjour. Merci de l'invitation de pouvoir parler sur l'antenne. Écoutez, pour nous, c'est pas vraiment une revanche. Pour nous, c'est une grande satisfaction et on est très reconnaissant à notre population valaisanne qui, elle, a pris le temps de réfléchir à ce qu'on avait à dire et qui nous a écoutés et qui nous soutient. Donc, ce qu'on désirerait, c'est que les politiques en fassent autant.
Alors avec nous également Nicolas Voide, chef du groupe PDC du Bas-Valais au Grand Conseil valaisan, membre de la Commission de la Santé. Vous êtes au téléphone. Ça vous surprend peut-être ce résultat, plus de 11 000 signatures. Vous regrettez aujourd'hui de ne pas avoir intégré les médecins dès le départ ?
Non, écoutez, je crois que nous avons fait, nous, un travail de parlementaire, donc il n'y a plus aucun chiffre qui m'impressionne en tant que tel. Le seul chiffre pour l'instant qui a encore un sens, c'est celui du vote au Parlement, puisque cette loi a été adoptée par 94 députés, donc par le 73,44% du Parlement. Je crois que réunir après certains mécontents autour de certaines idées certainement un petit peu facile, et surtout autour simplement de la deuxième partie d'une loi, dont finalement seule la première partie était importante aux yeux des députés valaisans, c'est-à-dire permettre le financement des soins hospitaliers dans le canton du Valais à partir du 1er janvier 2012, c'est la nouvelle exigence de la LAMAL. Tout le reste, tout ce qui est l'organisation de l'hôpital du Valais, viendra, nous l'avons, nous les politiques, effectivement promis. Nous attendions pour ce faire, et on nous aurait reproché fait si nous ne l'avions pas fait. Nous attendions donc le rapport d'audit de la Fédération hospitalière de France, qui maintenant est arrivé, est à l'étude. Nous aurons toute une demi-journée de session pour parler de toutes les propositions de l'ensemble du milieu politique et dans lequel sont bien représentés aussi les médecins, pour revoir les fondements et l'organisation même du nouvel hôpital du Valais. Mais ce n'était pas la question du jour et c'est dommage qu'en posant une mauvaise question, on obtienne autant de mauvaises réponses.
Monique Lekiagen, le référendum justement remet en cause la question du financement dont on parlait tout à l'heure.
Écoutez, dans le référendum, il remet en cause les modifications de la loi qui ont été faites. Nous, on n'a jamais contesté les changements qui concernent le financement. Et donc ça, c'est des changements qui peuvent être mis en route par des ordonnances. Et notre référendum, il ne bloque pas vraiment la mise en application de ça.
Mais ne prend pas d'ordonnance, Madame Le
Guérin. Non, mais vous savez très bien que c'est le Conseil d'État qui le fera.
Mais vous savez très bien que c'est une mesure du Grand Conseil qui agit par le biais de la loi, voire du décret, mais en tout cas pas par voie d'ordonnance.
Voilà, mais ça, en tout cas, vous savez comment le résoudre, et je pense que ça, c'est pas à nous médecins de vous dire comment il faut résoudre ce problème. Nous, ce qu'on veut résoudre, c'est les problèmes médicaux que nous rencontrons sur le terrain depuis 6 à 7 ans, et c'est pour ça que nous avons profité de l'occasion que cette loi soit revue, et heureusement, on s'est aperçu que quand même, il y a plus de 11 000 citoyens qui sont de notre avis. Et dans une démocratie, je commence à me poser franchement des questions. S'il y a 216 médecins qui demandent qu'on fasse une politique basée sur des faits, qui prennent en considération les choses que nous savons, que l'audit confirme aussi. On a 11 810 signatures en même pas 2 mois. Et ça suffit pas pour faire réfléchir les politiques et revenir sur une position qu'ils ont prise en mars sans écouter ce qu'on avait à dire.
Monsieur Voigt, vous allez revenir en arrière ?
Mais bien sûr, parce que ce n'est pas un retour en arrière, mais c'est la révision de la deuxième partie du deuxième chapitre de la loi, c'est-à-dire l'organisation de l'hôpital du Valais, qui est en chantier. Mais la première partie, le financement, j'entends avec plaisir, Madame Le Guérin, n'avoir aucun reproche à faire contre cette question du financement. Pour le reste, nous n'avons jamais dit que tout était parfait, mais nous avons quand même lu, comme les 216 médecins, comme certainement aussi les 11 000 signataires, que dans le rapport d'audit de la Fédération hospitalière de France, la qualité des soins et la sécurité des patients en Valais n'est en aucun cas remise en question.
Alors, voilà,
après qu'on accorde au corps médical plus de place dans l'organisation, nous le voulons, nous le ferons, que nous intégrions de manière dans les textes encore plus clairs la volonté de tout le monde d'assurer le bilinguisme dans ce canton au niveau de la prise en charge hospitalière, nous le voulons, nous le ferons, mais ce n'est pas le sujet du jour et ce n'est pas en réunissant les opposants à l'hôpital du Chablais ou les membres de la bourgeoisie de Sion ou quiconque d'autre qui peut avoir un intérêt à faire couler ce projet. Pas du tout pour les mêmes intérêts que ceux que vous défendez, Madame Lekiagen, que vous ferez avancer
Alors, je vais conclure, Madame Hagen.
Oui, et je pense que quand même, depuis mai qu'on a lancé ce référendum, on a un site qui s'appelle www.leisreferendum.ch. On a toujours gardé une même ligne. On a déjà discuté ça ensemble en mai, et vous revenez toujours avec les mêmes choses
et
qui sont fausses.
On n'a jamais contesté l'hôpital.
Voilà. On n'a jamais contesté Rena. Vous avez certainement lu l'audit comme nous d'ailleurs. Et dans l'audit, donc, vous voyez qu'il y a des mesures urgentes qui sont proposées. Elles sont proposées en vue de 2012. Donc 2012, c'est dans même pas une demi-année.
Et oui,
donc les changements qu'il faut faire.
Que le financement doit être en place. L'audit
ne parle pas du financement. Monsieur Voigt, l'audit ne parle pas du tout du financement. Il parle bien de la deuxième partie de la loi de laquelle nous parlons nous aussi.
Oui, mais vous jetez le bébé avec l'eau du bain.
Il va falloir conclure, je suis navrée.
Vous jetez le bébé avec l'eau du bain et ça, c'est inacceptable.
Monique Lekiagen, vous étiez avec nous ainsi que Nicolas Voigt. Merci d'avoir été avec nous sur cette question. Bonne soirée.
Forum, Nathalie Ducommun, Tatiana Odo.
En Égypte, des milliers de manifestants continuent d'occuper la place Tahrir au centre du Caire où ils ont dressé leur tente depuis vendredi. Des manifestations similaires mais de moindre envergure ont lieu un peu partout dans le pays. Alexandre Bouchanti, vous êtes notre correspondant au Caire. Que demandent ces manifestants ?
Alors, il demande d'abord que les revendications de la révolution soient réalisées, c'est-à-dire d'abord le châtiment de tous les responsables de la mort ou d'avoir blessé des manifestants durant la révolution, et en tête l'ex-président Moubarak, mais aussi le châtiment des responsables corrompus pour des milliards et des milliards de dollars, et puis il demande plus de justice sociale et notamment l'augmentation des salaires, ainsi que l'épuration de l'appareil de l'État.
Et comment le pouvoir répond à ce mouvement ?
Alors la mesure la plus récente a été celle du ministre de l'Intérieur qui vient d'opérer la plus grande purge de l'histoire de la police, puisque 587 généraux de police ont été mis à la retraite anticipés ou limogés. Et puis il y a aussi les procès des responsables de l'ancien régime qui seront dorénavant accélérés et diffusés en circuit fermé pour que les familles des victimes puissent les suivre. Et puis il y a un remaniement ministériel qui est prévu dans les jours prochains.
Et puis est-ce que ce sera suffisant pour dénouer la crise ?
Alors pour l'instant, la bourse, en tous les cas, pense que c'est bien. En tous les cas, c'est la première fois depuis vendredi qu'elle est dans le vert aujourd'hui. Mais les analystes politiques, eux, pensent qu'en fait, il ne s'agit que d'une accalmie, puisque beaucoup des revendications des révolutionnaires sont difficiles à remplir à court terme, surtout avec un marasme économique qui est en train de s'installer.
Alexandre Bouchanti, vous étiez en direct du Caire. Merci. Les piratages sur Internet s'accélèrent, vols de données, révélations de documents secrets, mises hors service de sites web. Dans cette guerre numérique, certains hackers ou groupes de hackers se sont fait une réputation. Dernier exemple en date, le vol de 90 000 adresses électroniques de militaires américains, des données aussitôt diffusées sur Internet. Mais que volent au fond ces pirates informatiques ? Nous avons joint l'un d'eux tout à l'heure, Paul Da Silva. Lui, eh bien, il revendique le hacking comme un acte citoyen.
Pour moi, le hacking, à l'heure actuelle, c'est finalement une des dernières solutions qu'a le citoyen pour se faire entendre des élites qui, historiquement, avaient le droit à la parole, donc à la fois les politiques, les médias et les artistes. Et en ce sens-là, j'ai un peu l'impression que le hacking est une forme d'art. C'est un point de vue qui est le mien et qui n'est pas partagé par tout le monde. Mais ça reste quelque chose, je pense, qui nous permet à nous, simples citoyens, de nous exprimer au-delà du vote, qui est le seul moyen actuellement de s'exprimer sinon.
Mais dans certains cas, c'est aussi une violation de la sphère privée, de la vie privée, non ?
Tout à fait. Après, ça dépend de comment est-ce que c'est fait et de comment est-ce que on se sert de ces compétences-là. Concrètement, quand on a aujourd'hui un permis de conduire, on a le droit de conduire, on n'a pas le droit de dépasser les limitations de vitesse. C'est exactement la même chose quand on a des capacités qui nous permettent de pirater. On peut s'en servir pour faire de bonnes choses, comme on peut s'en servir pour transgresser la loi et parfois dans des limites qui ne sont pas morales non plus.
Vous-même, vous avez piraté des sites ?
Alors personnellement, moi je pirate des sites, ça a été mon emploi pendant un certain temps, donc pour le compte de mes clients, leurs sites.
Et ça veut dire que vous ayez des sortes de tests en fait pour eux ?
C'est de l'audit de sécurité en fait, tout simplement. Donc ça c'était mon emploi pendant un certain temps, et au-delà de ça, je me servais aussi de ces compétences-là pour faire passer des messages, jamais en ne détruisant quoi que ce soit et toujours en prévenant suffisamment à l'avance les personnes que j'avais attaquées pour qu'ils puissent corriger avant de parler de ce qui s'était passé.
Ce que vous dites alors, c'est que vous êtes resté jusqu'à présent dans les limites de la légalité ?
La légalité, finalement, c'est une notion qui est relativement abstraite. Je suis plutôt resté dans les limites de la morale. C'est-à-dire que de toute façon, en France, quand on fait du piratage informatique, on est considéré comme hors légalité. Et on a déjà vu des gens qui ont signalé des failles extraordinaires, des choses qui permettaient de mettre complètement à plat une entreprise, qui l'ont fait de très très correcte façon pour faire en sorte que l'entreprise en question n'en pâtisse pas, et qui se sont retrouvés avec un procès et des problèmes, des complications judiciaires derrière, alors que finalement ils avaient essayé d'aider cette entreprise-là.
Mais alors, quelle est l'éthique, finalement, d'un pirate informatique ?
C'est assez compliqué, c'est assez vague. À chaque pirate, il y a sa définition du piratage, du hacker et de l'éthique. Pour moi, c'est simple. Ma définition personnelle de l'éthique, ça va être de ne pas causer de tort à des entreprises, de ne pas causer de tort à des particuliers. Et au-delà de ça, par contre, effectivement, il y a un certain nombre de choses qui me dérangeront moins, comme démontrer des choses en piratant des sites gouvernementaux, dès lors que je ne vais pas voler de données ou mettre en danger les données personnelles des utilisateurs de ces sites-là, par exemple.
Oui, parce qu'il y a les bons et les mauvais hackers, on peut dire ça comme ça. Il y a ceux, effectivement, qui tentent de mettre au jour des failles. Et puis, il y en a d'autres qui volent des données, qui publient des mots de passe, etc. Il y a vraiment deux camps.
C'est un tout petit peu plus subtil que ça. C'est-à-dire qu'on a tendance à diviser les hackers en trois catégories, les black hats, les white hats et les grey hats. Les white hats étant les gentils qui jamais ne vont transgresser la ligne, les black hats étant ceux qui ne vont jamais être gentils, et les grey hats étant ceux qui de temps en temps sont l'un et de temps en temps sont l'autre. Dans la réalité des faits, finalement, ça dépendra à chaque fois du combat qui est en cours, même si effectivement il y aura toujours des black hats, des gens qui se serviront de leurs compétences pour leur profit personnel. En attendant, il y a quand même aussi un certain nombre de personnes qui sont du côté white hats et qui aident plus qu'ils ne déconstruisent.
Et vous considérez, vous portez quel chapeau en fait ?
Le mien est blanc. Je suis en contact avec un certain nombre de politiques. J'ai même récemment découvert une faille sur le site d'une politique française à qui je l'ai signalé, qui m'a gentiment remercié et du coup à qui j'ai pu auditer le reste de son site gratuitement juste parce que sa réaction avait été extraordinaire. C'est le genre de choses qui peuvent arriver quand finalement on comprend qu'un hacker, il vaut mieux l'avoir de son côté et comprendre que sa démarche n'est pas nécessairement destructive, plutôt que de monter tout de suite sur ses grands chevaux et de menacer d'un procès.
Et c'était Paul Da Silva.
Le Festival du film de Locarno a dévoilé officiellement sa programmation ce matin. C'était à Berne. Michel Masseret, vous y étiez. Alors la manifestation qui aura lieu du 3 au 13 août proposera quelques 200 longs-métrages et une centaine de courts et moyens-métrages. Parmi les films en compétition, on note déjà 3 réalisations suisses.
Oui,
et 3... des grands noms surtout.
Oui, quelques grands noms, hein, mais je vous dis, c'est pas vraiment des noms qui vont faire tilt dans l'esprit des cinéphiles. C'est plutôt auprès du grand public. Enfin, justement, il y a par exemple la française Mia Hansen-Love, que vous connaissez peut-être. C'est la réalisatrice de Le Père de mes enfants qui était présentée à Cannes en 2009. Nicolas Klutz, à qui l'on doit La question humaine, un film qui avait fait sensation en 2007. C'était aussi sur la croisette. Le reste du casting de la compétition est, disons, représentatif d'un cinéma très international avec plus de 10 pays représentés. Mais franchement, pour l'heure, difficile d'en dire beaucoup plus car les informations sur ces œuvres sont plus que réduites. Ce que l'on peut annoncer, c'est que le concours officiel réserve 14 premières mondiale sur 20 films présentés, un joli coup réussi par Olivier Père, le directeur artistique qui pilotera cette année donc son deuxième festival.
Alors Olivier Père, on s'en souvient, Michel, l'an passé, il avait créé de petits scandales avec une programmation de plusieurs films assez sexes, on le dira comme ça pour rester poli. Est-ce que ce sera de nouveau le cas ?
C'est vrai que l'an passé, le début du festival avait été marqué par la polémique autour du film Elle et Zombie, un film d'horreur trash autour de zombies homosexuels. Cette année, rien de cela. C'est du moins ce que m'a dit Olivier Père après la conférence de presse. L'épisode de l'an passé était un cas à part de toute manière, car depuis une dizaine d'années, le sexe est moins présent dans le cinéma, beaucoup moins du moins que dans les années 80 ou 90. Si le festival ne promet pas de scandale, il accueillera par contre des stars comme Claudia Cardinale et surtout Harrison Ford et Daniel Craig qui viendront défendre le film Cowboys et Aliens. Tout un programme, une première européenne d'ailleurs, qui a été accordée au festival. Ce sera le samedi 6 août sur la Piazza Grande. On y verra des cow-boys combattre des extraterrestres. Comme quoi tout est possible à Locarno.
Et là, vous avez donné des noms que je connais. Claudia Cardinale et Harrison Ford, je vous remercie.
Quand
Michel.
Même.
Justement, parlant de la Piazza Grande, on y verra d'autres grosses productions.
Oui, mais à part justement Cowboy et Alien, la Piazza Grande accueillera Super 8 ou Super 8, une autre production de Spielberg réalisée par J.J. Abrams, à qui l'on doit Mission Impossible 3 ou Cloverfield. Il y aura aussi le nouveau Spike Jones et deux films présentés cette année à Cannes et qui sont très attendus. Le Havre, c'est le tout dernier Aki Kaurismäki, et surtout Drive du cinéaste danois Nicolas Winding Refn, à mon avis un des réalisateurs actuels parmi les plus talentueux, tout genre confondu.
Et on termine avec les Suisses, Michel Masseret.
Oui, ils seront très présents cette année. 3 films en compétition, dans le dernier Fernand Melgar, Vol spécial, un documentaire sur les sans-papiers menacés d'expulsion, tourné dans la prison de Frambois à Genève. Frédéric Chauffat, déjà présent à Locarno pour son précédent Valpurgis, revient avec Mangrove, un film co-réalisé avec la française Julie Gilbert. Il y a aussi une coproduction suisso-argentine signée signé Milagros Momentaler, une cinéaste très prometteuse, présente dans tous les grands festivals de cinéma. Et puis, le film suisse sera aussi à l'honneur via les sélections parallèles et les hommages rendus cette année à Claude Goretta et à Bruno Ganz. De quoi largement justifier l'augmentation de la subvention accordée au festival par la Confédération, diront les cyniques.
Et de quoi réjouir les toujours plus nombreux Suisses qui aiment se déplacer à Locarno pendant l'été. Merci Michel Masseret.
Merci.
Voici la météo d'Éric Fauchère.
La journée a connu le passage d'une perturbation depuis l'ouest qui a amené beaucoup de nuages et des averses localement abondantes. Le soleil a pu traverser par moments la couche nuageuse. Les dernières pluies pourront encore se produire jusqu'en soirée, après quoi la perturbation s'effacera progressivement. Demain s'annonce changeant avec de belles éclaircies en plaine et en vallée centrale et des moments encore très nuageux en montagne. Des averses seront possibles sur les Préalpes le matin. Le mercure touchera les 21 à 23 degrés au maximum. La journée de vendredi sera placée sous le signe de l'embellie sur les région de plaine avec un ciel assez ensoleillé. Le temps sera par contre encore très nuageux en montagne avec quelques averses possibles. Il fera 22 degrés au maximum. Samedi s'annonce d'abord ensoleillé, puis dès la deuxième partie de la journée, une nouvelle perturbation se mettra en place sur nos régions. Des averses sont attendues pour dimanche, apparemment plus fréquentes le long des Préalpes. Il fera un peu plus frais encore, moins de 20 degrés au maximum.
La météo avec Crédit Suisse.
La fondation Pierre Giannada et son exposition Claude Monet.
Infotrafic RSR.
Des averses locales dégradent actuellement les conditions de circulation, en particulier sur le bassin lémanique. Sur l'axe Genève-Lausanne entre Mérin et le pont sur la Versoie en direction de Lausanne, le trafic s'écoule difficilement, ainsi que sur le contournement de Genève entre l'échangeur de Perly et le poste de douane de Bardonnay en direction de la France. Et c'est la fin de cette édition de Forum. Merci de l'avoir suivi. Philippe Vaudan et Cyril Dolmer étaient à la technique. L'invité du matin, du journal du matin demain, c'est Géraldine Savary pour ce lien entre le Parti Socialiste et l'Europe, un peu chahuté ces derniers temps. Il est 19h.